Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Bonjour à tous et bienvenue à ce 11e épisode du podcast des Dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet et aujourd'hui, on va entre autres se parler de cash flow avec Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard et Alex Menti. Bonjour à vous.
Salut Pat!
Salut Pat!
On va...
Pourquoi c'est toujours les gars qui crient dans l'intro?
Mais t'as tellement raison.
Slack est ça.
C'est testostérone.
C'est... Allô Pat, comment ça va?
Bonsoir Patrick, ça va bien?
On va donc parler de cash flow, je le disais tout à l'heure. On va recevoir également la cofondatrice de Miss Fresh, Marie-Ève Prévost, avec nous tout à l'heure en entrevue. Mais pour l'instant, comme le veut la tradition, on va débuter avec nos coups de cœur et nos coups de gueule. Je débute avec toi, ma belle Marie-Philippe.
Coup de gueule, bien plate situation qui est arrivée cette semaine. On parlait des concours un moment donné, je pense, épisode sur le financement. Participé à un concours dans les dernières semaines organisé par le MDEIE, ministère de l'Économie.
Ça va changer de nom la semaine prochaine.
Je sais pas, man.
Toi, tu as participé à ça.
Oui, j'ai participé au concours. Moi, j'en ai fait beaucoup des concours avec Chic Marie. On en a gagné énormément. On a été très chanceux. J'ai participé au concours, je ne l'ai pas eu. Fait partie de la game, puis on s'en remet. Là où j'ai été un petit peu mal à l'aise par rapport à ça, c'est que quand je suis sortie de mon entrevue pour le concours, il y avait 3 jurys sur le panel de l'entrevue. Puis une des jurys est venue me voir, puis elle a dit « Écoute, moi j'ai participé à Chic Marie, j'étais cliente, j'adore ça, mais écoute, j'admets que j'ai retourné ma boîte en retard de plusieurs semaines, mais j'aimerais ça avoir un remboursement. » Fait que là, moi, je sors de l'entrevue pour le concours, puis elle, me demande ça. Tu sais, je trouve ça un petit peu bizarre. Je me dis « OK, ben je vais en parler avec mon service à la clientèle, etc. » Le soir où il annonce les gagnants du concours, elle revient me voir, cette jury-là en question, puis elle me dit « Ouais, tu sais, mon remboursement, t'as-tu regardé? » Je suis comme « C'est pas moi qui gère le service à la clientèle, fait que je l'ai transféré à quelqu'un, puis tu pourras regarder. » En tout cas, on est dans la soirée, une très belle soirée. Je gagne pas le prix, je félicite les gagnants, je retourne chez moi, puis par curiosité, je m'en vais voir dans mon système de service à la clientèle qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc-là. Puis 4 jours avant les entrevues pour le concours, elle était fâchée parce qu'elle n'avait pas son remboursement, qu'elle n'avait pas droit, parce que malheureusement, elle avait retourné ses vêtements en retard. Puis elle a dit « Je vais tout faire pour ruiner la réputation de Chic Marie. »
Et elle était jury,
elle était
donc
jury sur le panel, effectivement.
Méchant conflit d'intérêts.
Mais c'est ça. T'sais, moi, je me suis demandé, est-ce que c'est moi, parce que je suis avocate, j'ai un background là-dedans? Moi, je trouve ça bizarre.
Moi, je veux juste te dire, j'ai un bac en histoire, puis je trouve ça bizarre.
Mais c'est
aussi.
Ça.
Bien honnêtement.
Je me suis demandé, écoute, on a communiqué avec eux, ceux qui organisent le concours, ils disent « Ben non, c'est correct, il n'y avait pas de problème. » Puis moi, je comprends pas, puis... Tu sais, j'ai eu la réflexion en m'en venant en auto, puis je me suis dit, c'est des affaires de même, des niaiseries comme ça, qui font en sorte qu'à un moment donné, on devient cynique, puis on est tanné, puis on se dit, Chris, à quoi ça sert?
Il y a du monde qui ont perdu une médaille d'or pour moins que ça.
Oui, mais non, mais c'est ça, mais c'est des petites niaiseries comme ça que tu dis, Chris, c'est pas compliqué. Si t'as un conflit d'intérêt, tu te retires,
bien
tout
sûr.
Simplement. C'est pas, tu sais, ta vie n'est pas en jeu là, d'être obligé de juger ce concours-là. Fait que j'ai trouvé ça bien plate. Puis les entrepreneurs ont fait beaucoup à faire des fois avec les gouvernements, des trucs comme ça. Puis il y a beaucoup de choses qui arrivent comme ça. Puis à un moment donné,
mais en même temps, effectivement, c'est un dossier qui mériterait d'être suivi de toute manière.
Ben, tu sais, nous, on a appelé, je pense qu'on a dit ce qu'on avait à dire, puis après ça, c'est à eux de le faire, mais après, tu sais, c'est ça.
Les
c'est
gens
juste...
manquent d'éthique en général.
C'est ça, j'ai juste trouvé ça plat. Tu sais, au final, je m'en fous du concours, mais cette situation-là, j'ai trouvé bien plat.
C'était donc le coup de gueule de Marie-Philippe Simard. Est-ce qu'il y en a un qui a un coup de cœur, question de changer d'atmosphère?
Ben, moi, j'ai un coup de cœur, parce que j'ai commencé dans les derniers épisodes à parler d'événements à Montréal qui me tenaient à cœur et que je voulais donner une tribune. Et le prochain événement que je veux parler se déroule le 27 mai prochain. C'est Montréal Connect, la semaine numérique de Montréal, où est-ce que j'ai été invité à être panéliste pour ultimement le futur de la santé et de la médecine de précision.
Non, mais Étienne, tu ne parles pas des événements qui sont le fun à Montréal. Tu parles des événements où toi, tu es là comme pot de parole.
C'est juste un hasard.
Le thème, finalement, ce n'est pas le cash flow. Aujourd'hui, ce sont les conflits d'intérêts, visiblement.
Mais c'est pas
un exemple. On pourrait en parler longtemps, mais c'est un événement qui est ouvert à tous. Et où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est un coup de cœur pour dire, depuis les dérangeants, je remarque un certain changement dans ma vie. Où est-ce que des tribunes sont de plus en plus offertes? On m'invite à avoir mon opinion. Et je trouve que c'est un des beaux avantages de l'entrepreneuriat. Tout le monde, on a cette tribune-là pour éduquer. Donc, c'est sortir de notre cocon de simplement notre entreprise, mais aussi de parler le futur de la santé, parler le futur de l'alimentation, le futur du web avec Alex, le futur de...
Fantastique, merci Étienne. Alex, est-ce qu'on y va avec un coup de cœur ou avec un coup de gueule?
Un petit coup de gueule. Écoute, le budget fédéral est sorti il y a quelques jours Et franchement, c'est un petit peu décevant au niveau des entrepreneurs. On s'attendait...
Si tu voulais une subvention, tu ne l'as pas eu.
Non, mais on s'attendait à plus de mesures ou plus d'aide concrète pour les entreprises. Puis on n'a pas vu ça. Il y a juste des petites mesures ici et là. Toutes les entreprises qui font des affaires aux États-Unis, on sait que depuis un an, là, Trump nous fait mal. Donc, on s'attendait un petit peu plus de support. Puis on n'a pas eu ça. C'est une année électorale. C'est plate. C'est un budget clairement électoraliste.
Pourtant, il avait bien dit que ça n'allait pas être le cas.
Oui, puis on voit encore aussi ce qui est inquiétant, un gros déficit. Chose que on se rappelle dans la campagne électorale de Trudeau, il avait parlé d'un déficit, mais qui rétablirait avant la fin de son premier mandat.
On y est loin.
On est à la fin et on est très loin du déficit. Il fait juste augmenter. Déception à ce niveau-là.
Messieurs, dames, êtes-vous prêts à accueillir ici une fille qui a quand même fait sa marque dans un domaine qui est extrêmement concurrentiel? Marie-Ève Prévost de Miss Fresh. On l'accueille dans quelques instants?
Oui!
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme Hop du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millésimehop.com.
Notre invité d'aujourd'hui s'est donné comme objectif de changer les habitudes des consommateurs en rendant la cuisine maison facile et accessible à tous. Et c'est pour ça qu'elle a cofondé Miss Fresh. Bienvenue dans Les Dérangeants, Marie-Ève Prévost.
Merci, ça fait plaisir.
Qu'est-ce que c'est exactement que Miss Fresh?
Miss Fresh, c'est d'abord un service de repas prêts à cuisiner qui est livré partout au Canada. Donc, on a commencé le concept avec ce qu'on appelle les meal kits, là, les repas prêts à cuisiner. Mais on offre maintenant plusieurs solutions de repas, soit des collations, des breuvages, plein de solutions faciles pour répondre aux besoins de déjeuner, dîner, souper. Donc, c'est ça.
Un secteur où la concurrence est forte en tabarouette, là.
Il y a Good Food, Cook It, juste à Montréal. Vous autres, vous êtes là. Mais qui est arrivé en premier?
Moi, je peux vous dire que c'était pas nous. Après ça, je vais laisser les autres compétiteurs se débattre sur c'est qui les premiers, parce qu'on pourrait argumenter que HelloFresh, qui était dans des marchés à l'international avant de faire son entrée au Canada, étaient les premiers, mais ils n'étaient pas les premiers au Canada.
Alors, si Miss Fresh n'est pas la première entreprise comme ça à faire ça, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on fonde une entreprise comme celle-là pour se distinguer?
C'est extrêmement difficile, c'est un défi parce que on parle d'un nouveau produit qui est dans un nouveau marché. Donc, on doit d'abord faire de l'éducation du service. C'est pas comme si on ouvre un gym au coin de la rue puis qu'on dit aux gens, ben on a ouvert un gym puis tout le monde connaissait quoi. Un repas prêt à cuisiner. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on livre des recettes avec tous les ingrédients qui sont préportionnés pour que le client puisse faire lui-même des repas de qualité de restaurant à la maison. Donc ça, c'est le concept du meal kit.
C'est lui qui les fait, donc ça n'arrive pas déjà tout fait.
Exact. Okay. IKEA Effect, je crée mon repas, je le bâtis moi-même, puis j'ai la fierté de l'avoir accompli.
Mais là, j'ai acheté du IKEA justement récemment chez nous. Ultimement, la quantité de boîtes, de cartons que j'ai mis au chemin et je me sentais extrêmement mal pour l'environnement. Comment vous faites pour justement ne pas augmenter l'empreinte de carbone avec justement des préportions finalement?
Je suis super contente qu'on en parle. C'est un défi, je pense, qui parmi toutes les industries confondues. Quand on parle de e-commerce, ben nécessairement, les boîtes sont livrées à domicile dans un emballage. Et il ne faut pas se leurrer, quand on va à l'épicerie ou n'importe où ailleurs, les aliments qui sont là ont été préalablement emballés. Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est je pense qu'on veut tous faire ce qu'il y a de plus éco-responsable, puis chacun fait ses choix selon ce avec quoi il est confortable. Nous, à la base, puisque les ingrédients sont préportionnés et que nous, on commande uniquement les ingrédients que nos clients ont commandés, bien, on a le luxe d'éliminer le gaspillage alimentaire à la source. Puis, le client, ce qu'il reçoit, généralement, gaspille moins à la maison à cause de ça. L'emballage, qui est pour chaque aliment individuel, il est, dans le fond, proportionnel à la taille, right? Fait que si tu achètes ta grosse bouteille de ketchup, bien, c'est un gros emballage. Si ce que tu reçois, c'est un petit emballage pour ta portion, bien, c'est un petit emballage. Et tu gaspilles moins ta bouteille de ketchup que tu as acheté qu'elle est expirée après un certain temps.
Oui, mais la bouteille de ketchup, c'est du plastique ultimement qui est recyclable.
Nous aussi, c'est recyclable.
J'ai essayé vos produits, puis ultimement, des enveloppes, des sacs de plastique, c'est pas recyclable. Là.
Les emballages qu'on achète, c'est des emballages qui sont recyclables. Okay. Tous les contenants également. La boîte, l'isolant et tout ça, c'est tout fait à partir de matériaux qui sont recyclés et qui est recyclable. Mais cela dit, il y a toujours place à amélioration. Nous, on s'est informés au départ pour voir si c'était possible d'aller chercher des emballages compostables. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire parce que tous les manufacturiers d'emballage compostable nous disent « Ouais, ben c'est compostable, mais seulement si la municipalité l'accepte. Okay. Est-ce qu'on peut le jeter dans la poubelle? Ça dépend. » T'sais, fait qu'on dirait qu'il n'y a pas de solution miracle. On a lancé, il y a quelques mois, un projet pilote grâce justement avec notre partenariat avec Metro, où est-ce qu'on livre nos boîtes dans des bacs qui sont réutilisables, avec un emballage qui est réutilisable. Le client peut passer chez Metro, récupérer son paquet exactement, et on livre avec un sac réutilisable qui peut mettre toutes ses recettes dedans. Et ça a été un succès phénoménal et on a l'intention d'expandre ce projet pilote-là. On donne également un incitatif. Si tu passes récupérer ta commande chez Metro, puis il y a quand même plusieurs métros disponibles, bien là, tu vas pouvoir avoir 5 $ que tu peux dépenser chez Metro. Donc, on veut vraiment inciter les gens à préconiser cette option-là et éventuellement, qui sait, les autres options qu'on va pouvoir offrir.
Mais c'est fou parce que ça en dit long sur les préoccupations des Québécois en 2019. C'est-à-dire que dans une entreprise comme ça, où on parle d'abord et avant tout d'alimentation, on parle bien plus de recyclage que de ce que ça goûte, tabarouette, au bout du compte. C'est ça qui est quand même fou, je trouve.
Tout à fait. C'est un défi, je pense, pas juste pour notre industrie, mais juste en général. Tu sais, on a parlé avec beaucoup de gens qui sont spécialistes en développement durable et tout ça, qui nous disent, tu sais, faut évaluer pas juste l'emballage et tout ça, mais le carbon footprint, là, comme quand tu te fais livrer chez toi versus là, c'est une route qui est optimisée. Tu sais, tu réduis les effets de carbone en lien avec ça, tout ça. Mais le consommateur le voit pas nécessairement ça. Lui, ce qu'il voit, c'est, mettons, juste son emballage et tout ça. Il va y avoir des solutions comme, exemple, là, à cette heure, les Nespresso, tu as les capsules que tu peux retourner.
Tout ça. Ouais.
Il va y avoir des solutions comme ça qui vont être accessibles pour nous prochainement, j'en suis certaine, avec là, les pressions.
Puis il y a eu un petit scandale avec le poulet de Saint-Hubert qui venait de la Thaïlande, à ce qui paraît. Là, on a repâté au poulet.
Oui, on a repâté au poulet, absolument.
Puis là, on s'est rendu compte que c'était même pas du poulet du Québec. Mais tu sais, finalement, comme entrepreneur, moi, je me dis, mais là, ils ont juste fait un appel d'offres, puis ils ont eu du poulet pas cher de Thaïlande. Qu'est-ce que je te dise? Vous autres, est-ce que vos aliments, justement, c'est québécois? Y a-t-il un avantage à avoir l'aliment le moins cher, justement, parce que finalement, pour que ça revienne autant que faire une épicerie, comment vous choisissez vos fournisseurs de carottes, là?
Mais il n'y a définitivement pas un avantage d'avoir le moins cher parce qu'on a un souci de durée de vie, parce que tout ce qu'on envoie, il faut que ce soit frais, il faut que le client puisse le consommer durant la semaine, etc. Fait qu'on ne pourrait pas s'approvisionner du poulet. Puis c'est frais, c'est pas surgelé.
Ça serait drôle que Miss Fresh ne soit pas frais.
Exact, ça serait très drôle. Mais c'est sûr que autant que possible, on privilégie des produits qui sont locaux. Un, parce qu'ils sont meilleurs. Ce qu'on produit ici est plus goûteux, plus savoureux. Puis ça compte beaucoup pour les consommateurs, le goût. Mais on peut pas offrir uniquement des produits d'ici parce que sinon, on offrirait juste des carottes puis des navets à l'année longue. Puis ça serait un peu difficile comme choix de menu.
Mais le goût, c'est toujours relatif au talent culinaire du consommateur. Parce que trust me, moi, ça a été de la merde quand j'ai essayé. C'est brûlé.
Moi, Marie-Ève, j'avais une question. Tu sais, j'ai suivi beaucoup Blue Apron aux États-Unis. Ils ont fait un appel public à l'épargne. Je pense qu'il était valorisé à quelque chose autour de 1 ou 2 milliards là, il y a quelques années. Ouais, c'était une grosse affaire. C'était le gros joueur aux États-Unis. Là, aujourd'hui, ils sont rendus à 200 millions, ce qui est très bon, mais qui est une grosse perte là, par rapport à ce qu'ils ont eu comme financement. Good Food au Canada, valorisation aussi autour de 200 millions, mais il n'y a aucune de ces business-là qui fait des profits, qui est capable d'être profitable. Est-ce que c'est parce que le modèle d'affaires n'est pas fait pour ça ou c'est parce que l'économie d'échelle, à un moment donné, ça ne marche pas? Est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à ces business-là? Ou...
Bien, c'est sûr que ça prend un certain volume pour générer des économies d'échelle. Puis les business comme les nôtres sont beaucoup comparés comme des business de tech. Puis la façon qu'ils opèrent, c'est vraiment de rapidement aller chercher des parts de marché.
Est-ce que c'était ça votre stratégie à vous?
Nous, non, clairement. Puis c'est une des raisons pour laquelle on a décidé de s'associer avec Metro dans le contexte d'aller chercher un partenaire stratégique pour justement, c'est pas la game qu'on joue, là, d'aller chercher des parts de marché à tout prix sans se soucier de la profitabilité, là.
Est-ce que ça a été difficile de laisser aller, justement, c'est quoi, c'est 70%, je pense, de votre entreprise à Metro? Oui. C'est-tu, là, quand ça arrive, là, quand tu signes, c'est comme, OK, t'as-tu l'impression de laisser un peu partir de ouais, mon bébé?
Absolument, ça vient avec un chèque.
Non, ça... je veux bien, là, mais...
Oui, mais le chèque ne fait pas abstraction de tout. T'as quand même des boss après ça. T'sais, t'es plus...
Mais c'est clair, mais je pense que l'analogie que j'utiliserais, c'est un petit peu le contexte d'un mariage. Je pense qu'il y a un dating qui se fait préalablement, puis on choisit un partenaire. Puis généralement, quand on décide de se marier, entreprise parce qu'on a fait le choix qu'on a le bon partenaire. Puis j'utiliserais définitivement cette analogie-là dans ce contexte-là.
Est-ce que Métro qui vous a couru après ou...
Ou vous qui étiez sur un Tinder
des supermarchés? Qui a swipé? On a fait un mutual swipe. Là, on s'est collé. Exact.
Mais donc, OK, c'est ça. Fait que vous avez laissé ça aller.
C'est in a relationship. Ouais. C'est pas « it's complicated ».
Non, okay, c'est in a relationship. Okay. C'est pas complicated du tout. Puis on est très heureux de la relation qu'on a avec eux. Franchement, on demeure content, là. Il y a pas...
C'est un peu une drôle façon.
Ça va très mal.
Oui, c'est ça, exact.
On demeure content. C'est la chose la plus weird que j'entends dire en relation. Non, t'as pas peur, justement, de joueurs comme, mettons, Couche-Tard qui ont fait l'acquisition de Cuisito, Amazon qui veulent se lancer là-dedans, ou parce que, justement, t'es backé par Métro, là, tu te dis comme, OK, on a les reins solides, on va être capable d'avoir notre part de marché.
Ça me fait toujours rire quand j'entends les gens parler d'Amazon parce que...
Du supply chain management. Ils sont excellents à amener un item d'un point A à un point B.
Tout à fait. Puis ils sont dans toutes les industries confondues. Fait que pourquoi qu'on serait étonné...
Sauf la santé. Sauf la santé.
Oh, be careful.
Tabarnak.
Oui, c'est ça, exact. C'est sûr que de la compétition, c'est bon. Je pense que ça fait réfléchir les gens. Les consommateurs sont soucieux de, tu le mentionnais tout à l'heure, encourager des produits locaux et tout ça. Amazon a son offre de service.
Ouais.
Walmart a son offre de service. Je pense que c'est pas un winner-takes-all market, définitivement. Là.
On parlait du 70% tantôt. Tu sais, je pense que vous l'avez fait quand même, ça faisait pas longtemps là, que la business était partie, là, si j'ai suivi le calendrier.
Non, ça faisait pas longtemps.
Ouais, c'est un an ou deux, quelque chose comme ça?
Deux ans.
Ah, c'est ça, c'est très rapide.
Ouais.
Y a-t-il un moment donné que, je pense que t'es parti ça avec ton frère, y a-t-il un moment donné que vous vous êtes dit, hey, peut-être qu'on a été cave. Peut-être que là, la valo est rendue comme à être 3-4 fois plus faux, puis on a peut-être passé à côté de l'argent. On aurait peut-être dû attendre.
As-tu laissé de l'argent sur la table?
Ouais.
Non, on n'a jamais eu cette réflexion-là. Je pense que quand on prend une décision... tu vas avec. Puis quand on fait le choix de s'associer à un partenaire, on se dit, bon, ben, est-ce qu'on fait le bon choix pour le court terme, pour le moyen terme, pour le long terme? Et nous, on croit fermement que c'est le bon partenaire pour nous.
Mais as-tu le droit d'aller faire autre chose dans ta vie un jour? Ou comme là, c'est fini, t'es marqué?
Pendant 50 ans.
Maintenant, j'ai le droit de faire autre chose dans le futur. Mais Métro, c'est pas la première intégration de la sorte qu'ils font.
Là, tu dis intégration, mais c'est basically acquisition, là.
Oui. Mais je veux dire, pour que ça fonctionne bien, il faut que l'intégration se passe bien aussi, là, tu sais. Puis, je ne sais pas combien de compagnies essaient de faire des mergers and acquisitions qui ne sont pas nécessairement successful. Eux, je pense qu'ils ont un bon track record avec Première Moisson, Adonis. Puis, je veux dire, la transaction avec Miss Fresh s'est passée en même temps qu'ils étaient en train de travailler sur la transaction avec Jean Coutu. Tu sais, c'est des belles histoires.
Et Colin, l'équipe de M&A était occupée.
Marie-Philippe l'a évoqué tout à l'heure. Donc, tu as parti ça avec ton frère en 2015. Puis on a eu un débat ici dans un des premiers podcasts là-dessus. Partir ça avec son frère, avec la famille, donc, il y a des avantages, il y a des désavantages.
Mais les avantages sont qu'on se connaît bien. Les désavantages, c'est qu'on se connaît bien. Fait que, la première année, c'est sûr qu'il y a tout le temps des ajustements, mais je dirais que ce qui est le fun, c'est que tu pars déjà avec une base, tu sais à qui tu t'adresses. Quand tu vas à 150 km/h, t'as pas le temps nécessairement de t'enfarger dans les fleurs du tapis. Faut que ça avance, faut qu'on prenne des décisions. Puis avec quelqu'un avec qui t'as l'habitude de négocier, sur une base quotidienne, ça va plus vite, c'est plus efficace.
Négocier ou écœuré.
ça dépend.
Les parties de Noël sont pas trop tendues depuis ce temps-là.
Non. T'achètes-tu un cadeau Noël encore à ton frère ou t'es comme mange, t'es écœuré de te voir?
Non, mais tu sais, quand t'as l'habitude de t'obstiner ou peu importe, c'est sûr, là, t'es comme, oh merde, c'est vrai, il y a d'autres gens qui nous regardent. Okay, là, on est dans un mode professionnel.
C'est
ça.
Me le dire à ma mère.
Je te pose la question à 100 $. T'as le choix d'un seul plat de Miss Fresh.
D'un seul plat?
Ben, ouais, voilà. Le best, là, le vrai de vrai, celui que tu dis. Moi, c'est lui mon préféré.
Pour moi, personnellement, de la shakshuka. C'est...
Qu'est-ce que c'est?
Bien sûr, tout le monde sait c'est quoi.
C'est un plat avec des boulettes d'agneau assaisonnées dans une sauce tomate. Puis généralement, on met aussi un œuf sur le dessus. Découvrez des nouvelles saveurs.
C'est comme les boulettes IKEA, mais pimpées.
C'est ça, exact.
Mais petite question rapide, est-ce que la fille de Miss Fresh mange du Miss Fresh?
Absolument. Ouais. Absolument.
Est-ce que tu contribues aux recettes ou pas pantoute? Ça n'a rien à voir. Vous avez combien de chefs qui pensent à tout ça?
Ben, on travaille avec plusieurs chefs différents qui nous contribuent des recettes pour justement éviter d'avoir une seule signature graphique puis d'avoir tout le temps des recettes renouvelées. Puis je pense qu'on est rendu à une base de données au-dessus de 4000 recettes. Donc ça
Ricardo, non? ultimement, quand on fait.
Non, mais c'est une bonne idée. Oui, c'est des chefs invités, là, l'édition spéciale de la boîte, ben, quelque chose de en Martin Junot.
Ou même caché. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs de pubs qui sont des grands réalisateurs de films, mais on ne le sait pas. Est-ce qu'il y a des restaurateurs connus qui font des recettes pour vous sans que ça se sache?
Oui, puis c'est sûr
c'est là, sûr ça sera
un non.
Non, mais c'est sûr que parce que c'est sûr qu'une recette qui est signée par un chef officiellement, ça n'a pas le même prix qu'une recette qui est signée par un chef qui le fait on the side. Donc oui, on travaille avec des chefs de renom, mais que tu sais, on décide de que ce soit.
Y a-t-il des recettes qui vous amènent qui vous font chier en disant comme my God, cet ingrédient-là il coûte cher, il va être difficile à trouver, ou mettons, est-ce que vous essayez de merger avec des algorithmes pour dire, ben, si on fait une commande de carottes, on va essayer de mettre des carottes dans tous nos plats pendant un mois?
Non, on ne fait pas ça. Parce que c'est sûr qu'on suit les saisons pour justement aller chercher des produits locaux puis qui sont frais au goût du jour, etc. Puis qui respectent un certain food cost, etc. Mais non, on ne va pas manger des carottes dans un menu. Au contraire, on veut éviter d'avoir la même ingrédient dans le menu parce que quelqu'un pourrait dire, ben, moi, j'aime pas le brocoli. Mais là, s'il y en a dans trois recettes, ben là, on élimine son choix. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir la plus grande variété parmi 16 recettes qu'on rend disponibles par semaine.
Oh, 16, Cody.
Quand même. Vous devez avoir que l'été arrive quand même, en ce sens-là, pour le Miss Fresh, le côté fresh.
Hein? Avoir des framboises et des fraises du Québec partout.
C'est ça, exactement.
C'est sûr.
C'est quoi votre plus grand défi, je veux dire, pour grossir, pour continuer?
Bien, le plus grand défi, c'est d'assurer la croissance des nouveaux membres, etc., en continuant de développer des nouveaux produits. C'est faire tout en parallèle. Faut se focusser, puis nos clients demeurent au cœur de ce qu'on fait. Il faut toujours repenser aux clients. Fait que des fois, on développe des nouveaux produits. Là, on voit un commentaire, puis on dit « oui, ça serait bon, on aimerait ça le faire ». Fait que c'est gérer cette croissance-là en continuant de tenir en compte les commentaires qu'on reçoit au fur et à mesure.
Le feedback des usagers.
Oui, tu sais, parce qu'on va lancer une nouvelle offre, puis là, on va avoir du feedback, on va dire, oh, on a envie de s'occuper de ça. Tu sais. Fait que c'est extrêmement dynamique. Les dernières 4 ans ont été là, vitesse grand V, 150 km/h. Donc, quand tu avances à cette vitesse-là, là, c'est tasse-toi. Là.
Mais en même temps, c'est motivant, tabarouette.
C'est très motivant. Ouais. C'est très motivant. On se trouve très choyé d'opérer dans cet environnement-là.
Souvent, mais le churn rate, donc l'abandon des clients, justement, dans le modèle d'affaires du prêt à cuisiner, c'est votre bête noire. Vous voulez acquérir un nouveau client, le garder le plus longtemps possible pour créer une fidélité. C'est toujours compliqué, se désabonner. C'est toujours...
Pas chez nous. Non. Okay. Nous, on rend ça super easy. Tu vas dans ton compte, il y a un gros bouton, puis ça dit fermer mon compte. Tu peux sauter les semaines que tu veux pas, mais pour nous, c'était primordial.
Là, t'as 4 semaines de frais, de coûts, de boîte à payer.
Zéro. Il n'y a pas de frais. T'es pas obligé de commander. Il n'y a aucun frais de terminaison, rien du tout. Puis pour nous, c'était bien important.
Marie-Ève Prévost, merci énormément d'être venue ici avec nous autres dans les dérangeants. C'est super fin. Merci bien. Puis ben bon, bonne chance puis bon courage pour la suite.
Ça fait plaisir. Merci à vous beaucoup. Autres.
Merci.
Dans quelques instants, on a notre fameux débat où on va jaser aujourd'hui de cash flow. Toi, cash flow, tu connais ça, moi, Étienne?
Écoute, ça a été ma bête noire très, très tôt dans Biogénique. Il va falloir...
Gardien tout à l'heure. On s'en vient dans quelques instants.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants!
Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec.
C'est maintenant le moment de vous présenter la 8e start-up finaliste parmi les 10 sélectionnées par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. Jusqu'au 4 juin prochain, je vous rappelle que vous pouvez aller voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et il y a aussi les dérangeants, donc vous trouverez ici, entre autres, autour de moi, qui allez choisir un gagnant. Alors, notre projet du jour, Alex?
Aujourd'hui, on vous présente une start-up qui s'appelle Activé. On écoute Johan Ménard, kinésiologue en chef et propriétaire.
Souffrez-vous de stress, d'anxiété, d'insomnie, de fatigue ou de surplus de poids? En fait, tout dépend de votre microbiome. Bonjour, je me nomme Johan Ménard, kinésiologue. Et oui, la science a prouvé que 90% des problèmes de santé sont associés directement à votre flore intestinale et à votre microbiome. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons exercices et la bonne alimentation, vous remarquerez des résultats dès les 14 premiers jours, autant sur votre niveau d'énergie, votre tour de taille et votre poids. Pour savoir comment y arriver, ACTI-13V.
C'était donc Johan Ménard qui nous présentait sa start-up qui s'appelle Activé. Vos commentaires?
Moi, je vais commencer. Tu sais, on parlait tantôt de conflit d'intérêts. Moi, je connais M. Ménard, donc je vais pas donner de commentaires. Puis pour ceux qui se demandent comment ça fonctionne, le conflit d'intérêts, c'est ça que vous fassiez.
Allô, l'enthousiasme!
Ouais, écoute, moi, je pense que le pitch, il y avait la bonne énergie. Par contre,
il y en avait beaucoup, effectivement.
Je mettrais peut-être un peu plus d'emphase sur expliquer c'est quoi le produit. Je pense qu'en l'écouter, on voit que c'était probablement un programme d'exercice et de nutrition, mais c'est pas assez clair. Moi, je mettrais un petit peu plus d'emphase là-dessus, mais sinon, l'énergie était là. Là c'est...
OK.
Mais on fait tout ça, ultimement, quand on a commencé nos entreprises, puis c'est un exemple assez clair. Ça donne la curiosité, son pitch. On veut aller sur le site web, mais la prochaine fois, c'est peut-être de plus d'aller dire c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, à qui ça s'adresse, combien ça coûte. Okay. C'est ça, 60 secondes, habituellement, elevator pitch, c'est ça que tu fais. Mais là, ici, on a vraiment le c'est quoi le problème. Et ensuite de ça, aller sur notre site web.
Le danger aussi souvent, puis moi, je parle plus là, en termes de communication, c'est parfois, des fois, de trop vouloir en dire pour le temps qu'on a aussi. T'sais.
Exact.
Ça fait en sorte aussi que ton pitch est vraiment, ton débit est rapide, rapide. Là. Des fois, il faut peut-être être prudent avec tout ça.
Si je te lance 5 balles de tennis, combien tu vas réussir à en attraper? Alors que si je t'en lance
dans mon cas, 5. Là, mais, je vous rappelle que vous pouvez aller... non, c'est pas vrai, 2. Pour aller découvrir donc nos 10 finalistes et voter, évidemment, pour le projet de votre choix, vous allez sur lesdérangeants.com/vente-à-salade.
Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com/vente-à-salade.
Les dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
C'est maintenant l'heure de notre débat. Je vous rappelle qu'on a avec nous Étienne Crevier, Marie-Philippe Simard et Alex Mency. Et vous avez choisi de vouloir parler de cash flow aujourd'hui. Puis moi, le néophyte en moi, dans un premier temps, vous demande pourquoi ou juste qu'est-ce qu'il y a à dire exactement sur le cash flow avec les entrepreneurs dans les entreprises. Je vous écoute.
Cashing!
Ouais, ben l'idée, c'est quoi exactement?
C'est tout. Non, c'est pas nécessairement de faire du cash. Le cash flow, dans le fond, c'est tes rentrées puis tes sorties d'argent.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose qu'on pense pas quand on est entrepreneur. On est comment? Il va y avoir de l'entrée d'argent.
C'est le flux de trésorerie.
C'est ça, flux de trésorerie. Mais...
Merci, dictionnaire de la langue française.
Très rapidement, il faut que tu te rendes compte qu'il faut que tu le regardes, ton cash flow, parce que.
Sinon... Aveuglement volontaire, c'est une étape dans l'entrepreneuriat. Je ne le regarde pas, il n'existe pas.
Tu sais, quand tu ne sais pas que tu n'as pas d'argent, tout va bien.
Oui.
Tu sais, à un moment donné, tu vas te le faire dire par quelqu'un.
La banque.
Ta facture, il faudrait que tu la payes ou. Le chèque n'a pas passé. Mais si personne te le dit, tout va bien. Même.
Mais c'est un peu, dans le fond, c'est comme ça pour les entrepreneurs. C'est un peu comme ça dans la vie en général aussi. Tu as un paquet de monde qui a le cash flow. Eux autres, il y a bien plus de dépenses que de rentrées.
Mais je suis d'accord avec toi, Patrick, parce que, ultimement, je voudrais boire une bouteille de Veuve Clicquot tous les soirs, mais si j'ai pas l'argent pour me la payer, j'ai pas l'argent. C'est... Fait que je vais aller m'acheter.
Tiens, arrête de faire le modeste.
J'allais m'acheter de la bière. Mais c'est le même principe pour une entreprise. Si tu regardes pas tes entrées et tes sorties dans le mois, tu peux faire de l'argent au bout de 30 jours, mais tu as une paye qui passe le 15, puis tu as une paye qui passe le 30. Fait que si l'argent n'est pas dans le compte le 15, même si tu as le contrat qui arrive le 22, tu es dans marde.
Oui, c'est ça. Les gens ont l'impression que OK, tu vas regarder tes revenus, dépenses. OK, j'ai fait 20 000 ce mois-ci, puis dans mes dépenses, j'en avais pour 15 000. Tout va bien, là, je suis 5 000 au-dessus.
Ouais.
Mais la vérité, c'est que ça se peut que le 20 000 que tu as fait, il n'est pas rentré encore. Tu as le contrat, la facture est partie, mais il n'est pas rentré. Fait que tu n'es pas au-dessus de 5 000. Dans le fond, tu es en dessous de 15 000. T'sais.
C'est souvent le premier indicateur de la santé d'une entreprise. T'sais, si tu es tout le temps cash flow négatif, ben, il y a un problème. C'est sûr qu'il y a des outils. Tu peux aller chercher une marge de crédit qui va compenser quand tu as ces flux-là. Mm-hmm. Puis en théorie, la marge de crédit, à la fin du mois, est supposée se rééquilibrer tout le temps. On s'entend. Tout le monde ici, leur marge de crédit sont à zéro à la fin du mois.
Ouais.
Mais bon, mais c'est sûr que le cash flow, c'est souvent ce qui fait qu'une entreprise va mourir. Si tu n'as plus d'argent, ben, tu ne peux plus payer tes fournisseurs, tu ne peux plus vendre de services, puis là, ben, c'est la fin.
Ben, en ce sens-là, justement, combien de temps, mettons, là, je sais que je vais généraliser, là, mais combien de temps tu peux toffer, excusez-moi l'anglicisme, là, quand tes dépenses sont plus importantes que tes revenus?
Ça dépend. C'est ça. Pierre-Yves McSween n'aimerait pas cette définition.
Évidemment pas.
Mais d'ailleurs, on devrait l'inviter.
À un moment donné.
Pour ajouter un peu de sérieux à cette émission.
Si tu es financé, ça, c'est un modèle d'affaires bien en soi, où est-ce que des entreprises, puis il y en a des bien connus à Montréal, par exemple BossBud, avaient ce modèle d'affaires-là, où est-ce qu'ils ont levé du financement des millions et des millions pour, ultimement, assumer un flux de trésorerie négatif pendant des années. Parce qu'ils se disent, on va manger le marché de l'achat de tickets d'autobus et le jour où est-ce qu'on va venir à être plus lean, plus mince, là, on va faire de l'argent. Amazon a été cash flow négatif, mais aussi, tu sais, probablement sa fesse, quasiment pendant 15 ans. Et donc, c'est des stratégies d'entreprise pour venir acquérir le marché. Par contre, c'est pas, ça met pas des entreprises très viables longtemps.
C'est très tech, hein, cette culture-là, de partir et d'être dans le trou, si on veut, pendant plusieurs années pour dominer un marché. C'est vraiment, on voit ça de plus en plus. Et majoritairement, je pense, dans les entreprises de technologie. Là,
mais là, c'est rendu pas mal. Tu sais, moi, mes compétiteurs, ils font ça aussi dans le retail. Fait que c'est rendu pas mal partout. Tu sais, pour faire éducation en 5 minutes de nos téléspectateurs.
Okay. Ça se marie, elle passe souvent à l'œil du dragon. Fait que ça s'habitue.
C'est ça. Je suis comme, ils sont où les caméras? Je suis pas habituée. Pour faire l'éducation, je reviens. On parle beaucoup de burn rate. Okay? Ça, ça veut dire que revenu moins dépenses, t'es en dessous. Fait que tu brûles de l'argent, burn rate.
Tu brûles plus d'argent qu'à rendre.
C'est ça. Souvent, quand on va voir les entreprises en grande croissance, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont brûler de l'argent. Fait qu'ils vont aller chercher du financement, mettons 1 million en financement, puis ils vont se dire, OK, mettons que je brûle, je sais pas, 100 000 par mois, ce 1 million-là va me durer 10 mois. Mm-hmm. Techniquement, s'il n'y a rien qui bouge, fait que dans 10 mois, il faut que je fasse une autre ronde de financement. Fait que c'est souvent comme ça. Tu y vas de ronde à financement, de ronde à financement. Ça dure à peu près 18 mois, une ronde entre les rondes de financement, jusqu'à temps que maintenant, ben, tu finisses par être profitable, tu es acheté ou tu fais un appel public à l'épargne puis tu vaux 1 milliard de dollars. Ça, c'est dans ce que les gens veulent, okay? Le scénario optimal. La réalité, c'est que souvent, les gens vont brûler de l'argent, faire des rondes de financement, brûler, faire des rondes de financement, mais maintenant, tant t'en brûles trop, les investisseurs sont...
Il n'y a plus personne qui veut investir. Là.
Non. Fait que là, tu meurs de ta belle mort, puis c'est parce que t'as mal géré.
Mais c'est ce qui s'est passé dans les années 2000 avec la bulle du dot-com. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui étaient cash flow négatives, qui ont toutes pété en même temps. Okay. Fait qu'il y a beaucoup de petits chéris qui ont fait comme, « Ouais, mais on faisait pas d'argent. Ouais, ciao, bye. »
Moi, je veux revenir au concret de votre vie d'entrepreneur. Tout à l'heure, je pense que c'est toi, Marie-Philippe, qui a évoqué le fait que parfois, tu sais qu'il y a 20 000 qu'il faut qu'il rentre dans ce mois-ci, mais il n'est pas rentré encore. Puis, tu en as besoin pour payer tes employés, puis tout ça. T'sais. Là, qu'est-ce que vous faites, vous autres, comme entrepreneurs? Est-ce que ça vaut la peine, mettons, d'aller biller de manière plus agressive vos fournisseurs?
Il faut. C'est la première erreur que les entrepreneurs...
Quitte à t'y mettre à dos.
C'est la première erreur que les entrepreneurs font, je pense, c'est qu'au démarrage, on est gêné de facturer.
Okay. On est gêné de collecter aussi.
On est gêné d'appeler le client et de dire « Hey, mon chèque, il est où? » Puis souvent, dans la majorité du temps, les entreprises qui te payent mal peuvent t'acheter puis te revendre à crédit bien des fois.
Sûr.
Un de mes fournisseurs qui vaut 100 milliards de dollars en bourse, eux, dans leur politique de paiement, c'est 365 jours. Quand tu fais affaire avec eux, là, eux disent « Écoute, moi, je vais t'acheter pour X montant de ta solution, mais... attends-toi à recevoir un chèque dans un an. » Fait qu'eux se financent sur ton dos, finalement.
Clairement, ils attendent d'avoir tout vendu avant de te payer. Là.
Ben oui, c'est sûr. Mais c'est... Puis les machines de café Tassimo, j'ai entendu dire que c'était ça.
Ouais.
Ils payent année et demie. Et donc, c'est vraiment le cash flow est la clé d'être capable de venir collecter au même moment. Mais aussi, toi, en tant qu'entrepreneur, tu peux utiliser ces leviers-là comme croissance, ou est-ce que tu t'entends avec tes fournisseurs pour dire « je peux-tu te payer en 60 jours au lieu de 30, s'il te plaît, je suis un petit peu dans la merde. » Tu peux jouer avec tes comptes payables.
Ouais, la communication est importante. Hein, là-dedans. Si tu fais juste pas payer puis pas parler à personne, tu passes pour un pas bon. Si tu expliques la situation, souvent, tu peux t'en sortir.
Oui, Alex, d'ailleurs, quand est-ce que tu me payes?
Le mois prochain, je t'ai dit.
Non, mais t'as un bon point, parce que les gars font beaucoup de business à business, fait qu'ils ont des contrats qui s'en viennent. Moi, je reçois l'argent cash. Fait que les gens payent avec leur carte de crédit, je le reçois tout de suite. Ouais. Par contre, il faut que j'achète du stock d'avance pour le mettre sur le site web. Fait que moi, il faut que je paye mes fournisseurs. Après ça, je reçois l'argent. Fait que tu sais, il y a un problème de cash flow aussi. Si ça me coûte 100 000 d'acheter du linge, après ça, je reçois juste 25 000 ce mois-ci, il faut que je l'étale. T'sais. Fait que il faut que tu deviennes hyper créatif quand tu es entrepreneur. Là. C'est une des premières qualités. Fait que faut que tu deviennes créatif. Fait que tu vas aller voir, comme tu disais, tu vas aller voir tes fournisseurs, tu dis, regarde, moi, il faut que je te paye en 60 jours ou en 90 jours parce que c'est mon cycle. C'est ça mon cycle que ça me prend avant d'avoir recevoir. Sinon, je suis dans marre et je ne pourrais pas t'en racheter. Fait que tu sais, il faut expliquer cette réalité-là parce que faut comprendre que lui aussi vit ça. Mm-hmm. Fait que c'est comme une roue sans fin. T'sais.
Si tu le dis au début aussi, ça passe mieux.
C'est ça. Ah. Des fois, on est gêné de demander des termes de paiement puis on est mal à l'aise. Mais la vérité, c'est que si moi, je te demande 90 jours de paiement, mais je vais pouvoir t'acheter probablement 3 fois plus que j'aurais fait en payant 30 jours. Okay. Fait que tout le monde est gagnant au final. T'sais.
C'est intéressant. Faut juste le faire. Ouais. Vie, ouais. Est-ce que, parce que c'est des rumeurs, évidemment, mais est-ce que, puis ça vous est sûrement pas arrivé à vous, mais le fameux mythe du briseur de jambes pour aller récupérer, est-ce que ça existe? Je sais que c'est pas vous autres, mais en avez-vous déjà entendu parler? Si tu veux, c'est pas
mais
vrai?
Check la shape d'Alex. C'est le numéro 1 que j'appelle.
Non, mais écoute, il y a des outils, par exemple. Il y a des agences de collection. Tu peux envoyer une mise en demeure avec un huissier. C'est sûr que dans une entreprise, quand il y a un huissier qui se pointe avec une mise en demeure,
c'est plus plat.
Devant les employés, ça a un impact. Peut-être que tu vas avoir ton chèque. Mais, puis là encore, là, c'est un piège que les gens se font prendre. C'est que souvent, ils veulent pas utiliser ces moyens-là au risque de détériorer la relation d'affaires. Sauf qu'il réveille, là, le gars ne te paye pas. Il n'y en a pas de relation d'affaires.
Il est détérioré pas mal.
Envoie-le chez ton compétiteur. Là. c'est ton compétiteur qui va mettre dans le trou.
Il faut se faire payer à tout prix. Là.
Okay. Puis ça m'est arrivé, tu sais, l'épée de Damoclès d'avoir des dettes puis d'avoir justement des fournisseurs qui te courent après. Dans mon cas, ça m'est arrivé. Une fois, j'ai failli faire faillite dans le sous-sol. Puis je pense que je devais trouver comme 27 000 $ en 3 jours. Sinon, j'avais un de mes fournisseurs qui me faisait, tu sais, qui callait off. Là,
un avis de défaut.
Un avis de défaut, puis...
Hey, ça, t'as dû avoir peur.
Ben, c'est ça. J'ai cassé un peu le rêve à Étienne tantôt, parce que lui, il était vraiment sûr qu'il allait faire faillite. Là. Mais la réalité, c'est que si un fournisseur, il call un avis de défaut, il n'y a pas vraiment... T'sais, pour qu'il puisse avoir vraiment son avis de défaut puis aller saisir là, ta marchandise, il faut qu'il y ait en cours, il faut que ça mette de l'argent. T'sais, ça prend du temps, ces affaires-là. Ouais, fait que c'est pas demain matin. Fait que je pense pas que t'es sur le bord de la faillite.
Fait que ça fait 2 ans que je raconte cette histoire-là. Ça fait 2 ans que j'ai comme la peau, j'ai fait faire faillite.
Mais en sens ça, puis tu viens d'en parler avec tes fournisseurs, d'un côté éthique, mettons. Là. Ouais. Il vous manque de cash, il vous manque de cash flow, tout ça, comme entrepreneur. Combien de temps vous pouvez faire patienter justement vos fournisseurs ou même, en quelque part, vos employés qui attendent d'être payés? Là?
Je connais aucun entrepreneur qui a toujours payé en 30 jours. Il y a des entrepreneurs que ça leur est arrivé de retarder les paiements parce qu'il y avait une situation X. Tout le monde... Moi, au début, je me sentais hyper mal. Là. Je payais en 32 jours.
30 jours, ça, c'est normalement, c'est le standard.
Ouais, c'est 30 jours d'habitude. Mais moi, des fois, là, 35, là, puis je filais pas bien. T'sais. Mais maintenant, ça arrive à tout le monde. Il faut que tu vives avec parce que ça va t'arriver. Fait que le plus que tu... C'est plate. Là. C'est pas le fun pour personne. Mais comme je le disais tantôt, c'est une roue. T'sais. Ça se peut que ça arrive. Toi, ça va arriver. Ça tourne un peu idéalement. Faut pas le faire. Mais ça nous arrive tout. Fait que faut pas... Faut pas non plus pas endormir.
Là. Puis on va le dire, pour les auditeurs qui ont vu le documentaire Netflix sur le Fire Festival, là,
oui, bien sûr.
Ce qui est un méga flop, ce gars-là, il avait aucune conscience d'ailleurs, parce qu'il a dit justement, il a pas mis dehors ses employés, il a juste dit, vous recevrez pas de salaire, mais je vous mets pas dehors, comme ça, il avait pas besoin de payer le chômage. Règle numéro 1, tu payes toujours tes employés. Ah, c'est ça.
Ouais, ça, c'est critique. Là.
C'est critique. Et
toi-même, évidemment.
Avant toi-même, avant de payer ce que tu dois au gouvernement, ce que tu dois. Parce que, quand même, une notion, c'est que l'argent que tu dois à tes employés, ça peut te suivre même après une faillite. Donc, tu peux continuer de devoir cet argent-là. Okay. Fait que paye-la d'entrée de jeu. Puis après ça, mais là, tu peux être créatif, mais c'est ça qui passe en premier. Puis moi, je me rappellerai toujours une situation où est-ce que j'avais reçu un chèque d'un client qui était à peu près de 50 000 $ puis justement, je devais de l'argent à mes employés, je devais de l'argent à quelqu'un, fait que j'ai tout payé tout le monde d'un coup, fait que en 6 heures, j'avais dépensé dans ma vie 50 000 $. Okay. Et après ça, le soir même, je m'en vais à l'épicerie, puis là, je regarde le prosciutto à 4 $30, puis je dis, ouais, c'est un peu cher, hein, je suis comme... Les règles, je veux dire, les échelles de proportion sont complètement démesurées, puis c'est ça qui est comme fuckant quand t'es entrepreneur, c'est que finalement, j'ai donné un contrat à X pour 12 000 $ puis... Mais dans ta vie personnelle, tu n'es pas dans ces échelles de grandeur-là.
Okay. Tu sais, tu fais ce que tu peux quand tu es entrepreneur. Moi, là, j'ai toujours voulu payer mes payes. J'ai jamais manqué une paye. Moi, ça a toujours été important. Mais après ça, tu fais ce que tu peux. T'sais, des fois, tu n'es même pas capable de payer ton loyer, de payer ton épicerie, puis tu essaies de patcher puis de payer des fournisseurs. Fait que, tu sais, mettez-en pas trop sur les épaules. Là. Vous faites ce que vous pouvez. Allez-y avec vos priorités, puis faites de votre mieux en essayant de payer tout le monde.
Mais justement, mettons que tu n'es pas capable de le faire, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce que emprunter, est-ce que c'est une solution pour augmenter
ton cash-flow? Une famille sicilienne de Montréal.
Ouais, ben, je ne sais pas trop, là, mais je pense à...
Il y a des solutions, il y a des trucs qui s'appellent de la facturage qui te permettent d'aller chercher ton argent si tu finances tes comptes à recevable. Ça peut aider. Mais un truc que je voulais mentionner, c'est que des fois, quand on est entrepreneur, au début, il y a un gros chèque qui est rentré, puis là, on fait des dépenses. Je vais te dire, quand ton cash flow est négatif, là, puis que la paie approche, là, tu te rends compte que tu n'en avais vraiment pas besoin de cette affaire-là. Au début, tu es « Ah, c'est une bonne dépense. » Mais quand tu vois que tu n'as plus une scène, là, puis qu'à cause de ça, tu vas remettre en perspective là, tes dépenses.
À dépenser pas. On fait toute la même erreur. On se prend tous des locaux chers, des ordi chers, toutes des affaires chères. Ça vaut pas la peine.
2000 vers moi, rien là.
Ah non, c'est ça. Mais quand t'es pas capable de le payer, c'est fatigant.
Ouais, c'est ça.
Fait que limiter les dépenses au maximum.
Emprunterais-tu, toi, Marie-Philippe?
Moi, j'ai emprunté. Moi, j'ai fait les deux. J'étais allée chercher les investisseurs, puis j'ai emprunté. Je peux pas dire que ça s'est pas bien passé avec les investisseurs. Les prêteurs, ça se passe jamais bien, mais je pense que c'est leur rôle. Tu sais, les prêteurs, c'est ça.
Ben, ils prennent pas de risques.
Non, c'est des prêteurs. Fait que c'est toujours compliqué. Fait que, assume que quand tu demandes un prêt, ça va prendre 4 mois, puis ils ont plein de documents, puis tu comprends pas ce qu'ils veulent. Mais c'est ça. Fait que, oui, moi, je pense que c'est pertinent d'emprunter.
Non, mais il y a des bonnes dettes, on se le cachera pas.
Oui, il y a des meilleures dettes que d'autres. Il y a des bons partenaires, il y a des moins bons partenaires.
Mettons, il y a la Société d'investissement jeunesse de Montréal qui c'est une garantie de prêt. Fait que tu peux aller voir Desjardins avec cette lettre-là. Puis eux, ils disent, nous, on va te permettre d'emprunter 50 000 $. Puis toi, même si tu n'as pas la cote de crédit personnel, c'est pas grave, parce que c'est la SIJ, la Société d'investissement jeunesse, qui garantit ton prêt.
Okay.
Fait que ça, c'est une bonne dette. Puis, tu sais, il y a le prêt à entreprendre de la Chambre de commerce Montréal métropolitain qui est à 0 % d'intérêt. Mm-hmm. C'est une bonne. Tu sais, ça reste quand même une dette pour
te rembourser. Il y a des bons prêts. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas avoir trop de prêts, parce qu'à un moment donné, tu viens à la gorge, puis c'est pas mieux.
Take the money and run.
Mais si tu prends un prêt pour payer ton payroll, tu as un problème.
OK, c'est intéressant.
Okay. Un prêt devrait te permettre d'augmenter tes ventes, mm-hmm. augmenter ton marketing, grandir ton entreprise. Si c'est pour payer tes frais d'opération,
la structure
tu, fais juste tu fais juste repousser un problème okay. plus tard. Okay.
Vous avez parlé de différentes solutions, mais je sais que toi, Marie-Philippe, il y a déjà même ta parenté qui t'ont aidé à,
oui.
à alimenter ton cash flow,
oui.
à t'aider là-dessus.
Hey, ça, c'était, oh, ils sont tellement cute, là. On a commencé, je pense, ça avait 3 mois, bébé entreprise. Il fallait qu'on achète du linge parce qu'on avait trop de monde. On avait trop de clients qui voulaient louer des vêtements, puis on n'avait pas de linge, puis j'avais pas d'argent. J'avais beau essayer de faire des demandes de prêt, ça rentrait pas, c'était trop long, puis là, les gens chialaient parce qu'ils voulaient des trucs. Mes parents ont fait une vente de garage. Tu sais, les ventes de garage sur la rue, il faut aller chercher 2000. C'est pas beaucoup, là. Mais moi, ça m'a sauvé. Fait que je les salue, puis faites des ventes de garage.
C'est hot, quand même.
Oui, c'est vraiment That's cute. Ouais.
Aujourd'hui, 2000, hein, ça fait pas grand-chose.
Mais à l'époque, là, ça, aujourd'hui, c'est des peanuts. Mais à l'époque, là, ça changeait une vie. Là.
Ah ouais, ben,
tu sais, t'as vendu 4 cadres, puis en tout cas, j'étais bien content.
Je vous écoute, c'est super intéressant, là, mais j'ai une question quand même qui me vient en tête. Quand est-ce que tu arrêtes de te soucier de ton cash flow?
Quand tu vends ton entreprise.
Okay.
Mais ton cash flow, c'est la règle d'or. Puis d'ailleurs, on va mettre un template Excel pour nos auditeurs sur le site web des dérangeants. Donc, Alex va s'en occuper. Je viens de te l'annoncer.
Mais... tu vas fournir le template?
Je vais fournir le template. C'est un template qu'un de mes amis m'a donné de l'école de Beauce. Puis, c'est devenu une routine à tous les matins. Je me connectais, j'allais rentrer mes dépenses, les chèques. Puis dès que tu fais un chèque, il va dans le template, il va sur le fichier Excel. Fait que tu le vois en temps réel. C'est la règle numéro un. Donc, tu rentres le matin, tu pars la machine à café, tu dis allô au monde, puis tu remplis ton fichier. Ça prend 30 secondes, mais c'est de la rigueur, de la discipline. Ah, ça te permet de juste sortir la tête de l'eau. Puis tu fais pas comme Alex, puis l'aveuglement volontaire, ou est-ce que si tu le regardes pas, il existe pas?
Non, mais c'est un bon truc quand même. Là.
Oui, ça marche.
C'est son truc. Quand tu gères plus ton cash flow, moi, là, quand j'ai arrêté de gérer mon cash flow, ça fait peut-être un an, là. Quand tu as revenu, moins dépenses, c'est positif.
Ouais.
Ça règle tout. Là, ça a l'air facile dit de même, là, mais regardez toutes vos dépenses. Puis ce qui n'est pas une question de vie ou de mort, scrapez ça. Scrapez ça. Les bureaux, là, allez dans un WeWork. Les employés, des fois, tu peux engager des freelances. Publicité, il y a plein de façons de faire la publicité pas cher. Diminuer les dépenses. Puis à un moment donné, vous allez avoir une pile de cash. Tu sais, les problèmes de cash flow, là, les entrepreneurs n'ont pas idée à quel point c'est du stress. C'est de la gestion quotidienne du mental. Fait que quand t'as pas ça, t'es libre comme l'air. Fait que gérer vos dépenses, diminuer.
Moi, je me disais quand j'ai commencé, bon, dans un an, j'aurais pu me soucier du cash flow. Dans 2 ans, je m'en soucie encore. Fait que je pense que c'est une interminable bataille. Fait que parce que plus tu grossis, ben plus les dépenses sont grosses, plus le payroll est gros, plus ça a un impact. Fait que...
C'est ça, t'as pas de solution. Alex, c'est comme c'est sans fin.
Il y en a une solution et c'est Étienne qui va lui fournir. Là, il va te fournir un template.
Ouais, c'est ça.
Suis ça, tout va bien
aller.
Là, il
va falloir que tu regardes ton compte bancaire pour remplir son template.
Ouais, ça va être bon, c'est bon.
Une grosse erreur que beaucoup j'entends énormément dans le milieu des startups, c'est de dire, ouais, mais c'est pas grave, je suis tellement dans un gros marché, je vais tellement faire d'argent, de projeter, d'avoir confiance que ça va tellement bien aller. Puis tu sais, si, mettons, t'avais 10 % du marché des brosses à dents en Chine, oui, c'est sûr, tout le monde serait millionnaire, milliardaire, mais si c'était si facile, tout le monde le ferait aussi. Ouais. Fait que ne pas prendre cette avenue-là de dire « ça va aller mieux ». Moi, j'avais raconté dans un épisode, j'avais promis à mes employés que si on allait être encore ouvert dans un an, je les emmenais tous en République dominicaine. Mais c'est pas devenu plus facile, c'est devenu plus compliqué. Donc, ne jamais projeter que ça va être plus facile demain.
Alex Menci, Marie-Philippe Simard et Étienne Crevy, merci beaucoup pour la belle discussion.
Ben, merci, Pat.
Un gros merci également à Marie-Ève Prévost d'être venue nous parler, Marie-Ève de chez Miss Fresh. Merci à vous également de nous avoir suivis pour ce 11e podcast. Dans 2 semaines, manquez pas le nouveau podcast des dérangeants. Bye tout le monde.
Bye bye.
Bye.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
Les dérangeants.